Voici un chemin de croix qui parle aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. La voix de Michael Lonsdale, à travers la lecture très intériorisée, a su en rendre toute la profondeur et la richesse. L'organiste François Espinasse lui a donné une expression musicale de qualité par un choix de pièces qui marie des œuvres de grands maîtres et des œuvres contemporaines. Voici le récit du chemin de croix par Michael Lonsdale, un CD publié chez ADF Bayard Musique.
Ensemble, nous allons regarder le Christ Jésus dans sa passion et dans sa mort. Ensemble, nous allons essayer de cheminer avec lui sur cette voie qui, un jour, le conduisit du prétoire de Pilate à la croix du Golgotha. Mais ce regard posé sur lui, cette rencontre d'un instant serait sacrilège s'il ne devait provoquer en nous qu'un bref émoi, un élan aussitôt retombé. Que notre regard soit si attentif et aimant que, le reportant ensuite autour de nous et sur nos frères les hommes, nous reconnaissions dans leur visage les traits du Christ douloureux. Que notre rencontre avec lui soit si intense qu'elle se prolonge dans notre vie, et que cheminant avec nos frères sur la route de leur peine, de leur lutte, de leur souffrance, nous fassions avec eux le vrai chemin de la croix, et qu'ainsi se réalise la prière que nous adressons à Jésus. Seigneur Jésus, ne permets pas que nous soyons jamais séparés de toi. Première station. Jésus est condamné à mort. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Et nous l'avons vu, les reins saints d'un linge blanc, à genoux devant ses apôtres, leur laver les pieds. Parce qu'il aimait, il se faisait serviteur, partageant les tâches les plus humbles et se mettant au service des plus pauvres. Parce qu'il aime, le voici maintenant condamné, se mettant avec ceux qui n'ont plus de place parmi les hommes, choisissant d'être du côté de ceux qu'on rejette, du côté de ceux que nous rejetons à cause de leurs idées, de leur race, de la couleur de leur peau, quand ce n'est pas à cause de leur religion, parce qu'elle est différente de la nôtre. Puissions-nous aujourd'hui, si nous sommes nous-mêmes écartés, repoussés, condamnés, comprendre qu'alors, devant ce tribunal, nous l'avons rejoint et nous sommes avec lui. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Il y a bien longtemps, nous le savons, qu'il l'avait prise, cette croix, et qu'il l'a portée sur lui, car elle ne fait qu'un avec sa vie. La pauvreté de l'étable de Bethléem et le froid de la nuit d'hiver, c'était sa croix. La crainte du massacre et la fuite soudaine, l'exil d'Égypte, c'était sa croix. La peine qu'il dut pour affirmer sa propre vocation, infligée à son père et à sa mère, c'était sa croix. Au désert, par trois fois, résistant au mirage de la facilité et de la puissance, c'est elle qu'il prend. Ces longues nuits de prière, à quoi les passait-il, sinon à dire oui à sa croix? Ce oui qu'il répète en ce moment devant la croix d'aujourd'hui qui lui est proposée et qui prend la forme et le poids de ses deux poutres de bois. Notre croix, à nous, elle a la forme et le poids de notre vie d'aujourd'hui. Nous la connaissons, nous la mesurons, nous la pesons. Avec Jésus, essayons de dire oui et de la prendre sur nous. Troisième station, première chute de Jésus. Il est semblable à nous. Sa croix, pour une grande part, est faite de sa faiblesse. Que signifieraient en effet ses bois s'il les portait aisément, s'il ne pesait pas sur ses épaules, si c'était pour lui comme un jeu de les saisir et de les traîner? Mais leur poids dépasse ces forces d'homme qui vient de vivre une agonie d'angoisse et qui sort d'une séance de torture. Il est faible et il tombe. Il est au-dessous de sa tâche, comme nous disons. Nous le disons si souvent de nous, et ce qui fait la vie si lourde, n'est-ce pas bien des fois en effet la crainte de ne pouvoir la porter et le souvenir de nos échecs, de ces heures où nous avons mesuré les limites de nos forces, où nous avons appris que nous étions faibles, où nous sommes, nous aussi, allés au sol. Que Jésus, faible sous le poids de sa croix, que Jésus tombé dès le départ, nous garde fidèles à notre vie et à ses exigences, en dépit de notre faiblesse.
Thank you.
Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. D'autres se seraient cachés, d'autres se seraient enfermés chez elles pour pleurer, puisque de toute manière, elles n'y pouvaient rien. Mais parce qu'elle avait appris de Jésus les exigences de l'amour, la voilà sur le chemin de sa souffrance. Comme elle était avec lui sur les chemins où, blottie dans ses bras, il fuyait la férocité du roi Hérode. Comme elle était avec lui sur la route du pèlerinage de Jérusalem, où déjà elle devait se sacrifier pour qu'il soit aux affaires de son père. Comme elle était avec lui à Cana, où, au milieu de la fête, par le miracle de l'eau et du vin, il lui signifiait déjà le mystère de sa mort. La voilà parce que aimer, c'est être là. Parce que aimer, c'est consentir au choix de ceux qu'on aime. Parce que aimer, c'est leur donner raison quand tous les rejettent. Parce que aimer, c'est ce regard de Jésus et de sa mère sur le chemin du calvaire. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus. Devant Jésus qui appelle le secours d'un inconnu pour qu'ensemble il porte la croix, c'est à la foule immense des hommes qui ne connaissent rien de Jésus que nous pensons, et même à ceux qui, le connaissant mal, le rejettent. Qu'était Jésus pour ce paysan qui revenait sur l'heure de midi de travailler au champ? Un inconnu sans doute, un mal connu sûrement. Comment ne l'aurait-il pas pris en effet pour un coupable justement condamné avec cette croix sur les épaules et les gardes en armes autour de lui? mais de gré ou de force, le voici attelé avec lui à cette croix qu'il faut tirer, à cette croix d'où jaillira le salut du monde. Le voilà qui travaille avec Jésus pour sauver les hommes. Autour de nous, tant des nôtres, de nos proches, de nos camarades de travail, de nos amis étrangers à la foi, opposés à l'Église. Qu'ils s'éveillent à la compassion, qu'ils aident leurs frères, qu'ils nourrissent ceux qui ont faim, qu'ils luttent pour la justice et portent la vie de ceux qui sont faibles. Et c'est le Christ qu'ils ont rencontré et dont ils portent la croix. Sixième station, Véronique. Comment son nom nous est-il venu? Comment avons-nous gardé mémoire de son geste? Personne sans doute ne pourrait le dire. Les évangiles, eux, ne disent rien. Mais la piété chrétienne ne pouvait oublier, car Véronique fait ce que chacun de nous rêve de faire. Aimer assez le Christ Jésus pour le retrouver dans ses souffrances, aimer assez le Christ pour s'émouvoir de compassion devant son visage souillé de sueur et de sang, aimer assez le Christ pour oser s'approcher de lui et poser sur sa face le linge blanc qui détend et rafraîchit. Mais ce que Véronique a fait, chacun de nous est appelé à le faire, car chacun a près de lui un Christ au visage mouillé de larmes et souillé par la vie. Chacun de nous a près de lui un Christ entouré d'indifférence et d'hostilité. Chacun de nous a près de lui un Christ qui attend la compassion. Saurons-nous, comme Véronique, voir, reconnaître, oser, inventer le geste fraternel? Septième station, deuxième chute de Jésus. Au désert, il lui a fallu la triple attaque de Satan pour affirmer par trois fois sa fidélité au dessein de son Père. Quoi qu'il puisse lui en coûter, il serait l'agneau perdu dans le troupeau, tondu et immolé, sans qu'il gémisse ni ne proteste. Sur la route où il s'avance, il lui faudra ces chutes successives, dont nous voyons maintenant la seconde, pour qu'il puisse jusqu'au bout, et dans la plus extrême faiblesse, manifester sa volonté d'aimer jusqu'à l'extrême Dieu son Père et les hommes. Il tombe et il repart, bien qu'il n'ignore pas sans doute que, quelques pas plus loin, au premier caillou rencontré, il va, une nouvelle fois, s'effondrer. À quoi bon, disons-nous, à quoi bon entreprendre ce travail vain? À quoi bon instruire? L'ignorance et la bêtise seront toujours les plus fortes. À quoi bon vouloir être loyal, honnête, juste? Les malins et les puissants l'emporteront toujours. À quoi bon essayer encore? Le mal en moi gagne et gagnera toujours. À quoi bon? Seulement pour affirmer que l'amour est plus que tout, seulement pour tenter d'aimer jusqu'à l'extrême, seulement pour que les hommes pressentent que Dieu est amour. Huitième station, les femmes qui pleurent. De celles-là, l'Évangile parle. Saint Luc nous rapporte les paroles que leur adressa Jésus. Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants, car voici venir des jours où l'on dira « Heureuses les stériles ». À ces femmes que pousse peut-être seulement la curiosité, mais qui sont touchés dans leur émotivité. Jésus rappelle le malheur du monde. Ce n'est pas sur lui qu'il faut pleurer. En cet après-midi de soleil nouveau et de vacances où nous serions si tentés d'oublier, pensons nous aussi au malheur du monde. Souffrons et pleurons avec les chômeurs qui cherchent en vain du travail, avec les hommes condamnés par les nécessités économiques à vivre loin de leur famille et de leur patrie, avec ceux qui pleurent devant leur bonheur détruit, avec ceux qui tremblent et meurent dans la guerre. Souffrons et pleurons en eux tous, c'est le Christ qui souffre. Neuvième station, troisième chute de Jésus. Pourquoi fallait-il qu'il tombe une troisième fois et plus lourdement encore qu'auparavant? Peut-être simplement pour qu'il puisse crier vers le Père du fond de sa misère, pour qu'il connaisse le creux de l'abîme et qu'il sente bien la main qui, à nouveau, le remet debout. Il n'a pas demandé à son Père les légions d'anges qui l'auraient délivré de ses ennemis. Il n'a pas réclamé de miracle, mais là, écrasé au sol, collé à terre, épuisé, vidé de toute force, Il a bien dû supplier avec les mots des psaumes, « Vite, Seigneur, exauce-moi, vois, je suis à bout de souffle. Pourquoi faut-il pour nous aussi tant de chutes ? Pour que monte le cri, pour que nous sachions, sans illusion possible, que c'est lui, le Père, qui nous prend par la main et nous relève. » Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Le thème de la vieillesse, déjà là ou menaçante. La vie qui, jour après jour, dépouille. Les biens, les amis, les forces, les illusions sur nous-mêmes. Comme on enlève à Jésus ce qu'il a, ses vêtements qu'il tenait de sa mère, symbole de douceur, de tendresse, de beauté. Quand la vie nous dépouille, essayons comme lui de ne pas nous raidir. Onzième station. Jésus est cloué à la croix. Sa croix, il l'avait acceptée librement. Après chaque chute, c'est volontairement qu'il l'a reprise. Cette fois, on l'attache à la croix. Il ne fait plus qu'un avec elle par ses clous plantés dans ses pieds et dans ses mains. Même le voudrait-il qu'il ne pourrait plus échapper. C'est devenu pour lui l'inéluctable. Habituellement, les événements sollicitent notre réflexion, notre choix, notre décision. Habituellement, l'événement à l'état brut ne dit pas purement et simplement la volonté de Dieu. Il faut réfléchir, comparer avec ce que nous savons des mœurs de Dieu. Mais dans notre vie, il y a aussi l'inéluctable. Puissions-nous y découvrir la grâce de Dieu qui l'enrobe.
Thank you.
12e station, Jésus meurt sur la croix. Le silence seul convient. S'il faut dire quelques mots, que ce soit seulement ceux du Christ, le cri de sa mystérieuse inquiétude, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et l'affirmation de la confiance qui se ressaisit contre le doute, « Père, je remets mon âme entre tes mains. » Treizième station, le corps de Jésus est remis à sa mère. Un jour, sur une montagne semblable au Golgotha, Abraham avait attaché sur un autel son fils Isaac, sur qui reposaient les promesses de Dieu. S'apprêtant à l'immoler, il ne doutait pas de la parole de Dieu. Il était sûr que Dieu pouvait, dans sa puissance, lui susciter à partir du cadavre de son enfant la descendance innombrable qu'il lui avait promise. Et au moment où il levait son bras, l'ange du ciel était intervenu. Mais sur le calvaire, l'ange n'intervint pas. Et c'est un cadavre exsangue, abîmé par les supplices et la mort affreuse, qu'on remet dans les bras de la Vierge. Mieux encore que son père Abraham, elle croit que d'une manière qu'elle ne peut prévoir ni comprendre, le Christ mort est source de vie sans fin et bienheureuse. Pour nous, notre vie est souvent devant nous comme un cadavre. Elle n'aboutit à rien, elle ne conduit à rien, elle est morte. Croire que sous l'apparence de la mort se cache le germe d'une réalité vivante et infinie. Quatorzième station, le corps de Jésus est mis au tombeau. Marie-Madeleine, comme dans certaines gravures anciennes, assise, silencieuse auprès du tombeau. Nous tenir silencieux et priant auprès du tombeau du monde, porter en nous silencieusement pour le monde l'espérance de la résurrection. le silence du Père. Les chemins de la vie demeurent si mystérieux que nous ne savons jamais si ce que nous demandons et que nous tenons pour un bien immédiat est en réalité un bien. Une prière non exaucée qui nous laisse sur notre douleur jusqu'à nous retourner contre Dieu nous apparaît plus tard comme un don de sa miséricorde. Notre aveuglement en ce qui touche le sens de notre vie, l'avenir qu'il nous faut désirer, nous laisse à tel point dans la nuit qu'il nous reste à nous en remettre simplement à Dieu, en jetant notre pensée et notre désir dans l'appel de son nom, notre Père. Confions en ses mains miséricordieuses ce qui constitue la vérité et l'essentiel de notre vie. En le nommant Père, nous lui demandons de devenir ses enfants animés de l'abandon et de l'amour de son Fils, et qu'unis indissolublement à Jésus, nous puissions à jamais le considérer comme Père et l'appeler notre Père.
Vous venez de suivre ce chemin de croix médité par l'acteur Michael Lonsdal et ponctué d'œuvres de grands maîtres et des œuvres contemporaines interprétées par l'organiste François Espinas. Ce chemin de croix a été édité en CD par ADF Bayard Musique.